Je dois dire que j'ai 80 ans, donc c'est pas tout jeune. Et je suis une dame handicapée, des yeux et des oreilles. Mais vous avez pu constater que je suis pas encore muette. Simplement, je veux vous dire que mes oreilles sont rebattues, je dis bien, par ce vocable « aujourd'hui ». Est-ce que les gens ont appris à l'école qu'on disait « aujourd'hui » ? Est-ce qu'on dit « quel beau jour, quelle belle journée, c'est le plus beau jour de ma vie » ? Non. Bon, alors j'aimerais bien qu'on en vienne un jour. Quand on dit des poèmes, est-ce que vous dites « aujourd'hui » dans le poème ? Bon. Et puis alors, il y a aussi, en mars dernier, le parc des princes, l'arc de triomphe, tout ça, il y a des queues qui n'existent pas. Bon. Alors, il faudrait les retirer. Et puis alors, il y a ce « eh ben, oui, eh ben », alors en commençant une phrase, « ben, eh ben, voilà. Vous n'avez pas remarqué ça ? C'est affreux. Est-ce que le français existe encore ? Je me le demande. Eh bien, essayez de le faire passer, s'il vous plaît. Ça me fera un plaisir fou. Voilà. Je vous fais une grosse bise. Merci.
Allô, bonjour. Là-bas, si j'y suis. Écoutez, je me permets d'appeler dans le cadre du conflit à la SNCM. Conflit apparemment... Dont en faisant intervenir le GIGN, des gens cherchent à ce que les choses s'enveniment. On peut comme ça pousser les gens à des actions violentes, à la désespérance. Il y a des choses qui sont très étonnantes, mais je crois surtout que ce serait peut-être à la base, si j'y suis, d'enquêter sur le fameux déficit de la SNCM, dont Paul Jacobi et d'autres élus de Corse et des Bouches-du-Rhône, les élus, le maire de Bastia, le président du Conseil général de Haute-Corse, disent que ce déficit de la SNCM a été organisé depuis 2002, sciemment organisé de manière à dépecer l'entreprise nationale et la filer au privé. Merci, au revoir.
Au sujet de Gaz de France, vous savez, cette société qui était avant un des fleurons de notre service public a été privatisée. On peut lire que dans le conseil d'administration, en qualité de représentant de l'État, nous avons les noms de monsieur Christian Frémont, oui, le préfet là qui est tout à fait pour la privatisation de la SNCM. Ceci expliquant peut-être cela. D'ailleurs, il pourra aller siéger aussi au conseil de la SNCM avec des jetons de présence à quelques centaines de milliers d'euros par an. Et puis une des autres personnes, c'est Madame Clara Guémard, dont la particularité était de ne pouvoir vivre que dans 600 mètres carrés en duplex à Paris. Voilà, alors c'est toujours pareil, quoi, hein, les copains, les coquins, hein. Tous pourris, je sais pas, peut-être pas, mais quand même, hein, ça en fait, hein. Allez, bon courage et continuez, les collègues de la SNCM. De toute façon, malheureusement, il y a que ça à faire. C'était Henri de Bordeaux.
Salut Daniel, salut toute l'équipe. Alors j'apporte solennellement mon soutien aux marins de la SNCM, donc de Pascal Paoli, comme à tous ceux qui luttent pour vivre. Et le 4 octobre, il faudra agir avec nombre, force et détermination, occuper partout en France les lieux du pouvoir politique, financier et policier, leur faire comprendre que maintenant l'injustice sociale doit être abolie. Vive le peuple, vive la lutte, vive la France. C'était Patrice de Grenoble. Salut, au revoir.
Oui, bonjour, je voulais intervenir sur le conflit SNCM. Je suis Noël du Havre, de la France d'en haut, la France laborieuse. Actuellement, je constate que 69 pions sont injectés dans cette entreprise. Pourquoi ? Pour une entreprise qui vaut plus rien du fait d'une poignée d'extrémistes syndicaux ou nationalistes qui cassent leur outil de travail, se moquent de leurs clients et vont même jusqu'à détourner un navire. C'est une faute grave qui se doit d'être sanctionnée conformément à la loi de la République. Que l'État, l'Amonie, Israël, les représentants syndicaux et responsables cessent leurs propos de casseurs d'entreprises en bloquant les ports. Les clients partent à l'étranger et ne sont pas prêts de revenir. Il faut que cessent ces débordements des Corses et syndicalistes cagoulés, défiant la République. Ne payons plus pour ces entreprises fonctionnarisées, ingérables, perpétuellement, du fait de leur personnel indésirable et irresponsable. Voilà, c'était Noël. Vous pouvez me joindre au 06 75 54 14 74. Voilà, il y en a marre de ces conflits. À bientôt et bon courage pour votre émission.
Bonjour Daniel, je suis Alain. J'habite en Corse, à Lourdes. Et j'aimerais apporter une précision suite au propos d'un auditeur qui a parlé à propos de la grève du printemps dernier des marins corses, les marins du STC. Alors, à aucun moment, il faut qu'ils sachent que le STC n'a parlé de préférence corse. En ce qui concerne les emplois de la SNCM, tout simplement, il a demandé un rééquilibrage des emplois entre résidents, et je dis bien résidents corses et continentaux. Il faut rappeler à nouveau que la SNCM est une compagnie d'État qui est basée à Marseille et qui emploie 86% de personnel résident sur le continent et 14% de résidents en Corse. À aucun moment, on ne parle de continentisation des emplois. Pourtant, la SNCM n'existe que parce que la Corse existe. Voilà. Ne serait-il pas possible de partager tout simplement le travail entre Corse, résidents Corse et continentaux ? Soit 50-50. L'auditeur a le même discours que Sarkozy, que De Vedjian et compagnie. Il a été leur porte-parole. Il a deux solutions. Ou il les soutient, il soutient Sarko et sa bande, ou ça le regarde. Et à mon avis, la deuxième solution, c'est que c'est un imbécile qui répète ce que les décideurs lui ont dit de répéter. Ceci dit, il peut venir en Corse, il sera bien volontiers accueilli et nous lui expliquerons. Voilà Daniel, c'est tout ce que j'avais à dire et sache qu'en Corse, on t'écoute tous les jours. Bon vent Daniel.
Oui mais Alain, c'est dommage que vous ne m'ayez pas laissé vos coordonnées, ça nous intéresserait de vous contacter parce qu'on envisage évidemment, vous en doutez, de faire des reportages sur ce sujet rapidement. Donc si vous nous écoutez, le numéro du répondeur de la base si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37 et merci pour vos messages, tous les messages, et puis la dame qui nous corrige un peu nos fautes d'orthographe et de prononciation, c'est toujours précieux, merci. Aujourd'hui, on continue dans la série des trois reportages qu'on vous a présentés ces jours derniers sur les dans les quartiers de Marseille, ces rencontres et ces débats avec trois intellectuels représentatifs, Leïla Chaïd, Michel Warchavski et Dominique Vidal, sur l'identité, hein, et sur le repli identitaire. Là, on va continuer dans un éclairage différent, celui de Daniel Ben Saïd, qui est écrivain, qui est philosophe, qui enseigne la philo, qui est militant aussi à la LCR, à la Ligue communiste révolutionnaire, et qui publie un bouquin qui s'intitule « Fragments mécréants, mythe identitaire et république imaginaire ». Alors ça fait très sérieux et ça l'est et ça poursuit au fond ces réflexions et ces rencontres de ces derniers jours autour d'une idée de départ qui est effectivement d'un constat de départ qui est la fragmentation de notre société à l'intérieur de notre république réputée qui se prétend et que nous voulons indivisible. Sauf que, eh bien, on constate des divisions, des fragmentations de plus en plus grandes, évidemment, sur la pression de cette mondialisation ultralibérale qui veut que nous soyons en compétition les uns avec les autres. Cette guerre de tous contre tous finit par être la guerre de chacun contre chacun. C'est un ensemble de réflexions que Daniel Ben Saïd propose dans ce bouquin dont nous allons parler. Alors, autre chose aussi, les repères de la base, si j'y suis, on continue d'avoir des propositions de tous les côtés qui nous passionnent, qui sont intéressantes, je rappelle le principe très rapidement. Repère de la base si j'y suis, ça veut dire repère des amis de la base si j'y suis, ça veut dire que vous trouvez dans votre quartier, dans votre village, un bistrot qui vous plaît, où vous avez envie de retrouver d'autres auditeurs de l'émission, et vous décidez du lieu et du bistrot donc, et de l'heure à laquelle vous voulez vous rencontrer, une fois par semaine ou une fois par mois. Et ce soir, c'est sur l'île de Groix qu'on se retrouve à Locmaria, au bateau Ivre, et c'est à 20h30. Voilà, et ben, on y va. D'autres messages auparavant sur le répondeur 0156 40 37 37.
C'est Christine de Chalon-sur-Saône. Voilà, au printemps 2004, M. Sarkozy, déjà ministre de l'Intérieur, dit préparer un projet de loi dit de prévention de la délinquance. En créant des collectifs un peu partout en France, les travailleurs sociaux se sont mobilisés contre ce projet qui tente à faire des personnes démunies et donc en danger des personnes dangereuses. Le but de ce projet, eh bien, c'est de signaler aux maires des communes toute personne faisant l'objet d'un suivi social, en se servant pour ça des travailleurs sociaux. Celui qui a besoin d'une assistante sociale ou d'un éducateur, ce n'est pas toujours l'autre. Hein, tu perds ton emploi, tu divorces, tu as des problèmes familiaux, ça peut arriver à tout le monde. Le projet, on ne sait pas vraiment où il en est. D'ailleurs, en catimini, les choses avancent. Qui est au courant d'un décret paru le 11 août 2005 au Journal officiel et qui prévoit qu'en cas d'impayé d'électricité, ton fournisseur pourra en informer le président du conseil général et le maire de ta commune? Le sécuritaire est partout, il dérive et il concerne chacun parce qu'on est tous citoyens. Nous, on est toujours là. On s'organise pour informer au maximum. Notre collectif organise à Chalon-sur-Saône ce vendredi 30 septembre une conférence débat sur le thème politique sociale, politique sécuritaire. Elle sera animée par Didier Eckel, enseignant en sociologie. Rendez-vous donc à la Maison des syndicats à 20h à Chalon. L'entrée est libre et gratuite. Venez nombreux, c'est ouvert à tous. Merci, au revoir.
Et ben voilà, encore un petit coup de gueule. Quoique là, c'est même plus un coup de gueule, c'est un coup de vomi, on peut dire peut-être. Ben voilà, je suis dans une boîte dans le secteur de la cosmétique qui est en train de préparer un plan social. Et voici le challenge que nous avons eu entre deux collègues. Nos chers Big Boss considèrent que nous faisons doublon. Nous faisons doublon, donc l'une des deux est de trop. Et donc, la bonne idée qu'ils ont eue, c'est que, eh ben, battez-vous les cocottes, que la meilleure gagne. Et pour être sûr que vous allez bien vous battre, eh ben, on a négocié une jolie petite prime exceptionnelle pour celle qui sera licenciée. Et si on joue pas le jeu, c'est-à-dire que si on se bat pas comme des chiennes pour garder notre secteur et en faire le plus performant de la France entière, eh ben, celle qui sera sur le plan social, eh ben, elle aura pas de prime. Voilà. Ça s'appelle les jeux du cirque. Bienvenue dans le monde du travail. Et après, on s'étonne qu'un petit Chirac ne comprenne pas pourquoi la France d'en bas ne croit pas en l'avenir et n'a pas le moral. Voilà. Au revoir, la Belgique, j'y suis. Je suis cadre de gauche et j'ai la gerbe, la gerbe, la gerbe, la gerbe. Voilà.
Non, mais ne vous inquiétez pas, on a le droit de tousser et de rire à l'antenne. C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Ben Saïd. Fragment mécréant.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, ça commence par un constat que, un peu étonnant chez toi, c'est la République pourrie. Alors, il y avait la France, on avait la France moisie, et toi, tu attaques sur la République pourrie. Il y a quelque chose qui pue dans la République.
Il y a quelque chose qui pourrit et se décompose. Hein. L'air est quelque peu nauséabond, et à peu près chaque gazette, chaque jour, amène sa polémique aigrie, ressentimentale, une escalade de la concurrence entre victimes, une escalade du ressentiment. Et c'est pas la République en tant que telle qui est pourrie, mais disons que les références fondamentales sur lesquelles elle s'est constituée, pour le meilleur et parfois pour le pire, parce qu'il y a eu aussi la République coloniale, sont aujourd'hui battues en brèche et affaiblies, de sorte que la tentative de résister ou de faire front aux nouveaux problèmes en s'arc-boutant sur une République mythique a des effets pervers et nourrit une dérive républicaine autoritaire. Il y a une espèce de fondamentalisme républicain qui est disciplinaire sur l'école. On avait déjà vu au moment du premier débat en 91 sur la question du foulard. Ça s'est à nouveau manifesté avec cette loi, à mon avis, stupide sur les signes ostensibles ou ostentatoires religieux à l'école. Mais c'est pas un rejet de la République en soi, hein. J'insiste bien sur le fait que y a toujours eu finalement une contradiction intime, une fêlure dans la République, hein, ce que on peut résumer par la formule « leur République est la nôtre ». Il y a une République pionne, adjudante, mère fouettarde, une République d'ordre et de conquête, et puis il y a la République solidaire et égalitaire. Ça, c'est pas une nouveauté. Donc aujourd'hui, pour moi, défendre la République, pourquoi pas, mais à condition de bien démêler ces deux idées de la République.
Comment on a fait ça au lendemain ?
À la mairie, moi j'aimais lire dans la brique trois mots magiques qui nous promettaient en cas de malheur du baume au cœur. Mais quelque chose m'a fait dire mais, ils ont oublié de mettre les guillemets. Oui, quelque chose m'a fait dire mais, est-ce que c'est moi qui dois mettre les guillemets? Trois mots accrochés, qu'est-ce que ça pèse quand on n'a pas l'air ou quand on n'a pas le pèse? Trois mots accrochés qui nous ont fâchés. Je suis français, pas du pipeau naissant, que je suis franc là jusqu'à mon accent. Oui, je suis franc et c'est dit tout en passant. Je suis français par le sol et pas par le sang. Je suis français, pas du pipeau naissant, que je suis franc là jusqu'à mon accent. Oui, je suis franc et c'est dit tout en passant. Je suis français par le sol et pas par le sang.
Alors, ce que tu constates quand même d'entrée de jeu, c'est une fragmentation. On a parlé beaucoup de repli identitaire, de communautarisme. Tu constates que sous la pression de l'augmentation du chômage, de la précarité, il y a effectivement un lien social qui s'effiloche et des attitudes de repli identitaire sur des mythes religieux ou ethnique.
Oui, absolument. Alors, je ne sais pas d'ailleurs quel est l'ordre, s'il y a un ordre hiérarchique dans les facteurs, mais d'un côté, il y a les effets très brutalisants des contre-réformes libérales depuis les 20 dernières années, avec l'installation d'un chômage et de formes d'exclusion structurelle qu'on n'avait pas connu. Bon, il y a eu des chômages, des taux de chômage énormes dans les années 30, qui ont d'ailleurs nourri...
Ce qu'on sait.
Mais à une époque où, si on regarde ce qu'était la population française, elle était à plus de 30% rurale, et avec des liens de solidarité possibles, familiaux, des amortisseurs de ce type-là, qui aujourd'hui, dans des populations urbanisées, au contraire, à 80, 85, 90%, ne jouent plus. Donc on a des sociétés profondément blessées, atomisées, avec des phénomènes que tous les sociologues ont décrits, comme Castel ou d'autres, de désintégration et de désaffiliation sociale. Et ce, au moment où les formes de socialisation qui ont fonctionné dans des registres différents, notamment socialisation par la référence nationale, qui n'a pas toujours été réactionnaire. Il y a une époque où la constitution, la formation des nations était finalement un élan vers l'universel, un dépassement des particularismes provinciaux, localistes, etc. Bon, aujourd'hui, les nations ne sont pas terminées, mais c'est pas une référence finalement très efficace de socialisation. Vu aussi les brassages de population liés à la mondialisation, aux formes de déplacement de population, qui entre parenthèses sont encore plus importants entre pays pauvres que vers les pays riches. Les grands mouvements migratoires sont intra-africains ou en Amérique latine ou en Asie, plus que les flux tant redoutés officiellement vers les pays riches. Et puis surtout, il y a un affaissement de l'affiliation, que j'appellerais une affiliation de classe, avec ces phénomènes culturels, les fiertés, y compris du monde ouvrier, enfin tout un univers finalement de reconnaissance dans le collectif. Et évidemment, cet affaiblissement de ces références nourrit, par compensation, la recherche de d'autres formes d'affiliation. Alors, ça peut être notamment dans certains secteurs de la planète des références religieuses qui ont l'avantage justement d'être transfrontières et de coller à notamment d'ailleurs à la faillite de certains états postcoloniaux qui ont eu ni le temps ni les moyens de réellement se consolider comme états nationaux, d'où les décompositions et les guerres tribales en Afrique, hein. Et puis plus généralement les crispations identitaires et une espèce de quête panique presque, je dirais, des origines, où finalement les appartenances que Renan appelait minérales ou zoologiques tendent à remonter à la surface au détriment des appartenances choisies, politiques, ou des appartenances sociales construites.
Et au début du bouquin, tu fais une rapide chronologie, en France au moins, de la transition d'un regard social à un regard presque racial. Tu cites par exemple en 1983 Pierre Mauroy, qui était à ce moment-là Premier ministre. Il y a une grève, je crois, Aulnay-sous-Bois, c'est, oui, Citroën qui est en grève. Et le Premier ministre, 1983, Pierre Mauroy, gouvernement de gauche, qualifie cette grève d'islamiste. Donc il introduit un élément ethnique et religieux dans ce qui est une lutte sociale classique.
Oui, c'est un élément... C'est l'étranger redevenu inquiétant quand on le définit par une religion... qui n'est pas familière dans l'espace public français, ce qui va être un des problèmes, enfin bon, qui a elle-même ses contradictions, son histoire, beaucoup plus compliquée qu'on ne l'imagine. Et ce faisant, effectivement, on déplace le curseur de définition de classe vers des définitions ethniques ou religieuses. Alors pour moi c'est très grave, hein, enfin, c'est un tournant symbolique, le discours de Mauroy venant d'un premier ministre socialiste. Mais un an après, on avait déjà la poussée du Front National à Dreux, qui a joué à fond cette carte de déplacer l'opposition, des solidarités de classe, le travailleur immigré, l'immigré était d'abord un travailleur jusque-là, en termes d'opposition et d'affrontement français-étranger. Alors c'était très grave. Je crois que je cite un très beau texte, à mon avis, de Jacques Rancière, qui dit que l'immigré, finalement, en étant construit dans l'image publique comme conspirateur religieux presque, a été dépouillé de sa qualité politique, qui était, bon, il a perdu son identité politique, on lui a dénié du moins. Et on a, s'est engouffré une sorte de dérive avec des dénégations, des rejets, des rebuffades à répétition avec les lois Pasqua de Bré, avec le refus du gouvernement Jospin de régulariser les sans-papiers qui en faisaient la demande. Il y a eu des opportunités pour dégonfler cette image, ce fantasme du péril, et... elles ont été écartées délibérément par la droite, elles n'ont pas été saisies par la gauche pour des raisons d'opportunisme électoral et probablement illusoire en plus.
Voilà, ça c'est une manif du 24 février 1997, c'est nos archives, c'est les archives de la base où j'y suis. Voilà, c'était les mêmes thèmes, et effectivement, c'est ce rejet progressif du social au religieux, au niveau identitaire, qui peut expliquer la question du voile, la crise du voile. Je sais pas si vous vous en souvenez. Oui, quand même. Hein, ça a été des conflits dans les familles, parmi les copains, les amis, etc. Très, très dur. On l'a oublié parce que les médias, ben, c'est la fabrique de l'oubli, comme j'aime à le répéter, mais c'est quand même resté, en tous les cas, un sujet suffisamment important pour que Daniel Ben Saïd en parle dans ce bouquin qu'il sort ces jours-ci, Fragments mécréants. Qu'est-ce qu'on a sur le voile? Tu dis d'abord, il y a une opération de diversion.
Oui.
Tu dis, c'est un symptôme alors de l'affaiblissement de la République quand même. Si une République, la République française, a peur de quelques jeunes filles qui portent le voile dans le cadre scolaire, c'est quand même inquiétant pour cette République. Et puis, tu fais un peu écho aussi au travail de ton confrère Saïd Bouamama, qui lui voit dans cette loi foulardière, ce que tu appelles la loi foulardière, un racisme acceptable.
Bon, cette affaire du voile, dans la dimension passionnelle qu'elle a revêtue, est d'abord à travers le mal-être arabe, pour reprendre le titre du bouquin de Vidal et Boutrel, et finalement le révélateur et le miroir d'un malaise bien français, justement, et d'une désorientation, d'un grippage des institutions avec tous ces mécanismes sociaux, scolaires, emplois, etc., qui sont grippés. Bon, la réponse a été une diversion en plus consensuelle entre la gauche respectueuse et la droite au pouvoir. Et à mon avis, elle fausse considérablement le débat, parce que bon, j'ai l'occasion, évidemment, j'ai quelques étudiantes voilées tous les ans. Elles sont pas concernées par la loi, vu que ça touche pas les universités. Mais en discutant avec elles, on comprend tout de suite le mélange de motivations qui peuvent s'engouffrer derrière, qui dans quelques cas très minoritaires relèvent effectivement du prosélytisme religieux, de la provocation délibérée, etc., mais qui souvent est une protestation culturelle, une sorte de défi par rapport à des humiliations subies, et d'autant plus finalement compréhensible qu'elle se conjugue avec des défis d'adolescence vestimentaire aussi. Bon, tout ça est mêlé à des doses diverses. Et du coup, je suis attaché à la défense d'une certaine idée de la laïcité. Mais la laïcité va pas de soi. Elle a aussi son histoire, ses contradictions, etc. Et pour moi, aujourd'hui, dans l'enseignement, la ligne de bataille porte sur les programmes, c'est-à-dire sur les droits qu'on a acquis, conquis, parfois au terme de dures batailles, de lire Sade, de lire Spinoza, de faire des cours sur Marx, etc., ou sur Darwin. On voit avec l'offensive créationniste aux États-Unis que c'est pas acquis de manière irréversible. Pour moi, c'est là-dessus. Hein. Je dis crûment, si j'ai un étudiant juif intégriste qui proteste parce qu'on fait un cours sur Spinoza, ou une étudiante voilée qui s'indigne qu'on parle de Darwin et de l'évolution des espèces, bah, qu'ils aillent se faire bénir ailleurs. Mais leur vêtement, qui est toujours à la limite de l'espace public et privé.
Est-ce que tu vas les exclure de ton cours?
Bien sûr que non. Bien sûr.
Tu vas discuter jusqu'à la dernière goutte.
Je vais discuter
jusqu'au dernier mot.
Goutte et ça ne m'a pas posé problème. Alors, mais en revanche, discuter, comme tu le dis, parce que
ce qui est choquant peut-être dans le voile, c'est l'exclusion, la réplique de l'enseignement, la réplique de notre République, c'est l'exclusion.
L'inconvénient de la loi, bon, c'est l'exclusion qui renforce l'idée d'être victime, d'être exclu, etc., mais qui porte, ça j'insiste là-dessus, plus encore que sur les élèves, qui stigmatise une population entière. On a eu des cas scandaleux, j'en cite un auquel j'ai été indirectement pas mêlé, mais informé d'une femme d'origine maghrébine, une femme mûre, hein, voilée, qui est toute contente d'obtenir ses papiers français, et qui, le jour où il y a une cérémonie un petit peu solennelle à la préfecture de Bobigny pour le remettre aux gens qui avaient obtenu la nationalité, se voit exclue de la réunion, de la petite cérémonie, parce qu'elle porte un voile. Bon, là, on est dans l'ordre de l'évolution des mœurs. Le regroupement familial date d'il y a 30 ans maintenant. Bon, pour que des populations se familiarisent à une culture, ça se fait pas en 20 ans et en 30 ans. En revanche, je suis pas pour banaliser le port du voile, mais c'est de l'ordre de... À mon avis, c'est de l'ordre de là, pour le coup, de la maturation sociale, de la persuasion, de la discussion. C'est un signe d'oppression aussi. C'est pas seulement une protestation culturelle. D'où je comprends que dans le mouvement des femmes, l'idée de banaliser le voile soit choquante. Mais ça, c'est un travail à faire de persuasion, de longue haleine, et qui n'est pas de l'ordre de l'État gendarme. Bon, voilà. Et on n'est pas sur le même niveau, sur le même registre, dans ces affaires-là.
Je sais pas, parce que vous me demandez de choisir entre la religion et la loi de l'État. Bah, c'est la... Je veux dire, le choix, il est vite fait. Hein. Je choisis la religion.
Quand je suis arrivé, j'étais en train de dire mot pour mot, c'est pas une question de religion, c'est une question de droit des femmes. Alors, faut arrêter, je réponds sur droit des femmes, tu réponds laïcité, je réponds sur laïcité. Non, merde, pas.
Voilà l'école.
Des milliers de manifestants dans plusieurs villes.
Le sexe des anges. Paul Faribole. Rixe de mes anges.
Mardi dernier, les détruits.
Tu vois byzantin, querelle qui frôle.
Le tendre et le saint. Et la loi des geôles. Ciel rassassinant. Sur image pieuse,
satanique vent, d'Arabie heureuse.
Laïque, prophétesse folle et curé mondain, dont la jupe vole faubourg Saint-Germain.
Le voile à l'école, frivole parole, le voile à l'école, folle faribole.
Nous sommes les indigènes de la République. Cette déclaration, ce manifeste en mars dernier, a secoué Landerneau, concerné par ce dont nous parlons, c'est-à-dire les problèmes d'intégration, d'identité, etc. Nous sommes les indigènes de la République. On en parlera dans les jours qui viennent à travers un bouquin qui sort ces jours-ci, qui s'appelle « La fracture coloniale », qui essaye de regarder... En quoi est-ce que l'esprit colonial, l'idéologie coloniale persiste dans notre société et de quelle façon, qui est aussi la question qui a qui était à la base de ce manifeste des indigènes de la République. Ça, c'est une question sur laquelle Daniel Ben Saïd réfléchit et discute dans ce bouquin qui vient de sortir. Et puis, il est question aussi de cette loi qui est sortie en février dernier et qui, en substance, donne de la colonisation française un bilan globalement positif, disons. Voilà, deux éléments qui entrent dans les réflexions de Ben Saïd et dans toute l'élaboration et tout le questionnement sur l'identité, l'intégration et la fragmentation à l'intérieur de notre belle République.
Ce qui me paraît quand même fondamentalement discutable là-dedans, c'est une démarche, ça reste évidemment à vérifier à travers une discussion si possible ou autant que possible sereine, mais c'est de plaquer sur la situation des populations immigrées aujourd'hui, qui sont massives, hein, on y est à peu près 5 millions d'origine maghrébine, ou africaine, probablement plus, et pas seulement leur appliquer de manière symbolique la notion de l'indigénat, on pourrait toujours discuter bon sur la pertinence du symbole, mais d'appliquer à ces populations une grille de lecture qui est celle, presque mot pour mot, du portrait du colonisé de Memmi, qui lui parlait d'une société coloniale où le code de l'indigénat a institué une société de castes, effectivement, rigidement séparées. Bon, je crois qu'on c'est faire fausse route et c'est rater ce qu'il va y avoir et ce qu'il y a d'ores et déjà de spécifique dans la situation de l'immigration, d'une population qui est là pour rester, qui n'est pas de passage, notamment avec le regroupement familial, du fait des difficultés dans les pays d'origine, et dont la préoccupation première va être de trouver sa place. Il y a une récente enquête du CEVIPOF sur le vote des populations immigrées qui est surprenant. On peut toujours prendre avec des pincettes les échantillons, l'élaboration des critères et des questionnaires, etc. Mais où il s'avère que dans sa majorité, le comportement de ces populations par rapport aux définitions gauche-droite en France, par rapport aux pratiques religieuses, n'est pas qualitativement différent, hein, de populations françaises, disons, plus anciennement établies, pour éviter le terme répugnant de souche. Mais bon, donc il y a ce problème-là, et je crains qu'au lieu de chercher, alors évidemment il faut quand même préciser, c'est pas une concession, je pense que c'est très important, que l'inconscient colonial reste actif, ça, dans la perception de l'étranger, notamment du maghrébin encore plus. On voit très bien comment se superpose une image paternaliste de l'Africain qui a été véhiculée par les publicités célèbres, une image inquiétante de l'Arabe parce que finalement l'Algérie a gagné de haute lutte son indépendance, etc., et que c'est une défaite du colonialisme français. Donc tout ça, évidemment, reste actif et nourrit au quotidien quantité de discrimination, de stigmatisation. Tout ça est réel et évidemment à combattre, y compris dans le travail de réflexion historique et mémorielle, en mettant en mouvement ce qui serait l'équivalent de ce qu'on appelle aux États-Unis les coloniales ou les cultural studies, qui existent, mais de manière très dispersée et très peu assumée dans l'université française. Mais en revanche, à construire une image de finalement d'antagonisme de caste plus que de classe entre un indigène déterminé par la mythologie des origines et la majorité de la population, salariée, travailleuse, etc., on risque, au lieu de construire des solidarités possibles sur les sans-papiers, contre le racisme, y compris sur des questions internationales comme la guerre en Irak, etc., d'aboutir à des divisions ajoutées aux divisions. Et là, on est dans la logique infernale de la fragmentation, sans parler même après des concurrences victimaires, la manière dont se construit le rapport. Il y a un débat récent. Bon, évidemment, à partir du moment où existe une loi sur le crime contre l'humanité, incontestablement, la traite négrière en fait partie. Il n'y a pas là-dessus à pinailler. La loi Taubira est parfaitement légitime. Mais on voit comment se met maintenant tout de suite en scène une sorte de monopole du malheur, concurrence entre Finkielkraut et Dieudonné, et puis les dérapages qui s'en suivent, etc. Donc je crois que c'est ça qui crée un climat inquiétant, qui est d'ailleurs ce qui m'a poussé un petit peu par coup de colère aussi, et puis par inquiétude, à faire ce petit bouquin.
Alors, il y a un mot que tu emploies, c'est le mot de l'anthologie. Mais évidemment, tu déplaces le H et tu le mets devant. C'est-à-dire que c'est la logique de la hantise.
Non, c'est un clin d'œil. D'abord, oui, bon, en deux mots, sans faire trop d'étalage, de références littéraires. Mais d'abord, c'est quand même un clin d'œil à l'héritage de Derrida. C'est lui qui a employé ce mot pour désigner toutes les formes de spectre, de présence fantomatique. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a longtemps parlé du peuple juif déterritorialisé comme d'un peuple spectre. Et dans le très beau livre sur les figures du Palestinien, Elias Sambar parle à son tour de l'absence des Palestiniens de leur propre territoire, donc les Palestiniens à leur tour transformés en peuple fantôme. Alors, bon, le clin d'œil, enfin, c'est de l'humour un peu grinçant, je le reconnais, c'est d'opposer cette existence finalement fantomatique à une tendance qui existe aujourd'hui. Alors, malheureusement, chez de nombreux intellectuels juifs, c'est pas les stigmatiser, puisqu'ils se définissent quand même eux-mêmes comme tels, par leurs affiliations communautaires et leur expression publique, Finkielkraut, Jean-Claude Milner, Benny Lévy, aujourd'hui décédé, etc. Mais qui me paraissent là illustrés. Si on prend leurs livres récents, tous sont dans une quête des origines. Ils ont été déçus par la politique, beaucoup ont été militants à gauche, voire à l'extrême gauche. Ils ont été déçus par l'histoire. Et du coup, il y a une sorte de remontée aux racines d'une espèce de peuple juif originel dont l'identité serait dans le tête-à-tête avec un texte éternel et le commentaire du texte. Et, bon, ça a mené quand même pendant les négociations, par ailleurs avortées, entre Israéliens et l'autorité palestinienne, jusqu'à envisager le découpage vertical du sous-sol de Jérusalem pour attribuer les strates géologiques en termes d'un... Alors, je crois que là, on est dans un délire des origines qui est la contrepartie de la faillite des formes de socialisation dont je parlais, et du coup, une espèce de remontée dans le temps qui ne mène à rien, à mon avis. Hein. On a évidemment, chacun porte sa mémoire, chacun porte son histoire, mais chercher le point zéro d'une origine et s'enfermer comme ça dans... Être esclave de son propre passé, je cite un texte de Fanon que je trouve admirable, hein, qui est dans les dernières pages de Peau noire et masque blanc. Fanon qui, Dieu sait, a combattu les formes de domination coloniale et raciale, mais qui en même temps disait très joliment qu'il assumait pleinement ce qu'avaient été les souffrances, les crachats, les coups de fouet de ses ancêtres, mais qu'il refusait d'être esclave de l'esclavage, c'était sa formule, pour s'inscrire et inscrire cette oppression particulière dans une logique d'émancipation universelle. Alors, évidemment, c'était à l'époque de Lumumba, d'Amilcar Cabral, de Guevara, de Malcolm X, qui étaient des figures qui ne sont pas le Mollah Omar ou Ben Laden ou Zerkaoui aujourd'hui. Le contexte n'est pas le même, mais en revanche, je crois qu'il faut renouer avec ce raisonnement-là. C'est pour ça aussi que, puisque c'est l'année anniversaire de l'assassinat de Malcolm X, il me paraît bienvenu de rappeler que la trajectoire de Malcolm X est allée du communautarisme religieux et racial à la recherche de ce que, finalement, je ne crois pas que c'est abusif de dire, d'un certain internationalisme à travers ses voyages, ses contacts avec Lumumba, sa rencontre avec le Che, etc. Et que probablement c'est une des raisons de son assassinat.
There was two kinds of slaves. There was the house Negro and the field Negro. The house Negro, they lived in the house with master. They dressed pretty good. They ate good because they ate his food. What he left. They lived in the attic or the basement, but still they lived near their master. And they loved their master more than the master loved himself. They would give their life to save their master's house quicker than the master would. The house Negro, if the master said, we got a good house here, the house Negro said, yeah, we got a good house here. Whenever the master said we, he said we. That's how you can tell a house Negro. If the master's house caught on fire, the house Negro would fight harder to put the blaze out than the master would. If the master got sick, the house Negro would say, what's the matter, boss? We sick. We sick.
Malcolm X.
No sellout.
Malcolm X.
No sellout.
Malcolm X.
No sellout.
They think power respects is power. They take one little word out of what you say, ignore all the rest, and then begin to magnify it all over the world to make you look like what you actually are.
Much of what I say might sound like it's stirring up trouble, but it's the truth, it's the truth, it's the truth, it's the truth.
Il y a une figure qui traverse toute cette histoire, tout le paysage que tu observes avec journaliste, c'est Tariq Ramadan. T'en parles assez longtemps. Enfin, quelqu'un étudiera un jour le rejet dont la vie de Tariq Ramadan a fait l'objet, le sulfureux, l'ambigu, le sournois, quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, quoi qu'il dise. Il peut répéter un truc 50 fois et on dit, ah oui, mais en fait, oui, mais il dit ça, mais c'est pas vrai. Il y a quelque chose. Le soupçonné, le grand soupçonné, le grand exécré aussi. Alors c'est en train de se calmer, hein. C'est en train de, ça va revenir peut-être sous une autre forme.
Ça peut revenir. Bon, ce qui m'intéresse dans la mytho, enfin là aussi dans la figure mythologique construite par le débat médiatique ou la diabolisation autour de Tariq Ramadan, que j'ai croisé une fois d'ailleurs dans une de tes émissions, que je connais pas personnellement, c'est qu'elle reproduit de façon tout à fait curieuse et spectaculaire ce qui a été véhiculé pendant des années, voire des siècles, sur les Juifs. Le double langage, inassimilable, etc., etc. Bon. Alors, moi, dans l'état actuel des choses, d'abord, je suis pour écouter ce que disent les gens, y compris Tariq Ramadan, et pas supposer d'emblée. Sinon, tout débat est impossible. Si on se met à dire, ah oui, mais il y a les pensées de derrière, tout le monde en a. Donc, les conditions même d'un dialogue, c'est de prendre au sérieux la parole émise. Donc, voilà. Alors, il a pris position contre l'antisémitisme racial, sur le respect de la laïcité. Tout ça, il faut en prendre acte. Et même si c'était à double langage, le fait que ce soit dit a aussi un effet. Donc bon, moi je là-dessus, du coup, je résume par une formule qui peut choquer, qui est peut-être évidemment simplificatrice, c'est que quand Tariq Ramadan souscrit au grand thème des forums sociaux européens, ben, je pense qu'il n'y a aucune raison de l'en exclure, et que si derrière lui des jeunes qui n'y viendraient jamais viennent s'inscrire dans cet espace de rencontres et de débats, au lieu de ruminer dans leur ghetto, tant mieux de ce point de vue-là, que ce soit sur la dette du tiers-monde, sur la guerre en Irak, y compris Tariq Ramadan, lui, peut être un allié tactique. En l'état actuel de mes connaissances et des choses, je dis que ça demeure par ailleurs un adversaire stratégique, au sens où mon combat est un combat pour la sécularisation du monde. Je demande pas aux gens de renoncer à leur foi ou à leur croyance, c'est pas une position autoritaire, mais je pense que se défaire des vestiges, des colères divines, etc., bon, pour moi, est un progrès pour l'humanité. Donc c'est un travail qui est encore devant nous, qui est aussi le fait de courants parmi l'islam. Je crois pas que ce soit impossible. Mais c'est une question historique, c'est pas une question, en tout cas, liée à la nature des textes. Ça, je crois pas qu'il y ait de texte.
Et dont on a la mémoire quand même. Chez nous, on vient d'assister en Allemagne à l'élection d'une leader d'un parti démocrate chrétien.
Oui, bien sûr.
Donc on voit bien que s'il y a séparation du politique et du religieux, c'est quand même une histoire qui est encore toute chaude.
Qui est toute chaude, qui était également à des degrés inégaux. Hein, la place du religieux dans le discours politique aux États-Unis,
voilà, absolument,
est quand même considérable. Donc, c'est à des degrés inégaux, effectivement. Bon, et alors je reviens parce qu'il y a un rapport à la question Tariq Ramadan. Ce qui me paraît dommage dans la cristallisation qui a été faite autour de sa personne et de son discours, c'est que du coup, il est paradoxalement institué par ceux qui veulent l'exclure comme une sorte d'emblème exclusif et de représentant privilégié non seulement de l'islam, qui est plus différencié que ça, et de l'arabité. Alors qu'il y a des voix arabes laïques, vient de paraître un superbe bouquin intitulé « Être arabe », coécrit par Farouk Mardambeh et Elias Sambar. Bon, et la chance, c'est en ça d'ailleurs que je suis souvent indigné, exaspéré par la politique ou les politiques des gouvernements israéliens successifs, c'est qu'ils avaient la chance d'avoir des interlocuteurs laïques et une société pluriculturelle et plurireligieuse. Et au lieu de se saisir cette opportunité historique, on construit une image repoussoire d'une espèce d'islam éternel, incapable d'évoluer et monolithique, qui est encore une espèce de d'épouvantail et de mythe pour se faire peur, mais qui facilite pas les combats que mènent les mouvements des femmes en Algérie ou des voix arabes laïques comme celle de Mohamed Harbi et de bien d'autres qui sont exaspérés par le fait que finalement ils disparaissent derrière ce face-à-face entre un islam imaginaire et une république tout aussi imaginaire.
Daniel Ben Saïd, on va se quitter là-dessus parce que le temps passe. Mais est-ce que alors toi tu te situes évidemment comme l'homme de doute par rapport à l'homme de foi, le mécréant définitif.
Le mécréant définitif, oui, non, mais je crois effectivement, on vient de parler de l'évolution possible de croyants et dans toutes les religions y compris. Mais je pense pas qu'il soit indifférent de croire que la providence divine fait l'histoire et que le malheur est de l'ordre du châtiment des péchés, ou d'avoir une vision profane du monde et laïque du monde. Même que je crois pas que penser que le peuple juif est un peuple élu soit compatible avec une certaine vision internationaliste du monde. Voilà. Donc, je pense que la religion, si les croyants croient réellement, est quand même pas gratuite, neutre. C'est pour ça que je pense qu'il y a un combat laïque, mais qui doit pas être un combat normatif, autoritaire de l'intolérance, qui est d'abord sur le terrain des mouvements sociaux, des pratiques sociales, et d'une certaine durée, parce que là, on a affaire à des mouvements séculaires de la conscience, des pratiques qui se règlent pas justement de manière disciplinaire ou à la schlag. Donc voilà, on peut mener ce combat et le mener de façon ouverte et non pas de façon fouettarde comme la loi foulardière.
Voilà le livre de Daniel Ben Saïd, Fragments mécréants. C'est aux éditions Ligne Manifeste et c'est en librairie à partir du 3 octobre. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures, pas plus, attention, sur le site Radio France, France Inter. Là-bas, si j'y suis, à signaler aussi de Farouk Mardambeh, Elias Samba, Être arabe, on vient d'en parler aux éditions Actes Sud. Et puis un livre important de Paolo Persichetti, Exil et châtiment, coulisses d'une extradition, aux éditions Textuelles. Technique aujourd'hui, Anne Le Guénec et Julien Chabassu. Réalisation, Yann Chouquet et Raphaël Moutard. Assistante, Pascal Pascariello. Le numéro du répondeur, c'est 01 56 40 37 37. Et c'est Christophe Mabert qui s'en occupe. Réclame.